Alors tout à l'heure avec Sébastien et avec Jean Rubin, on s'émerveillait comme on s'émerveille souvent, hein, non seulement devant Dieu, mais devant ce que Dieu arrive à faire en nous mettant les uns à côté des autres. Je dois vous avouer que les titres que j'ai proposés il y a déjà quelques mois, je les ai proposés parce que ce sont les premières idées qui me venaient. Hein. Et puis quand j'ai vu aussi les titres des interventions que Sébastien devait apporter, je me suis dit, bon, est-ce que tout ça va bien coller, hein? Est-ce que ça va bien aller ensemble? Je ne savais pas exactement où il voulait aller. Certainement qu'il se disait lui aussi, je ne sais pas exactement où il veut aller. Ben voilà, j'ai l'impression que Dieu continue de bien faire les choses. Donc on avait raison de lui faire confiance. Pas de faire confiance à Sébastien ou à moi, hein, mais de lui faire confiance à lui pour le travail qu'il voulait faire pendant ce week-end. Donc voilà, on a pas mal parlé, en tout cas Sébastien a pas mal parlé de la souffrance. Et avec le titre que j'ai proposé, vous vous doutez que je vais continuer à parler de la souffrance. J'espère pas vous accabler, mais c'est logique avec ce titre, même si j'ai parlé d'amour. Hein, on parle de ce passage, de ce verset où Dieu dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Hein, donc on imagine bien qu'on va parler de souffrance. Mais il m'a semblé en tout cas que le lien très intéressant, je trouve, hein, qu'on peut faire avec l'intervention de Sébastien, c'est que Sébastien nous a invités. Et ça nous a été rappelé aussi dans le temps d'échange, hein, il nous a invités à vivre la confiance et puis à réaliser que c'est en vivant l'intimité avec Dieu, hein, que cette confiance allait grandir. On a parlé dans l'intervention, puis dans une petite discussion après l'intervention de Sébastien, de ce travail constant. Hein, c'est tous les jours, c'est pas juste de temps en temps qu'on prie, c'est tous les jours qu'on prie, c'est tous les jours qu'on lit, j'espère, en tout cas qu'on essaye. Et en grandissant, en faisant grandir cette intimité avec Dieu, ben la confiance grandit. Maintenant, moi, je veux vous parler d'autre chose, c'est de ceux qui ont trop confiance. Alors, pas en Dieu, mais en eux-mêmes. Hein. De tous ces moments où, finalement, ben, on est tellement bien, hein, on a l'impression que notre intimité avec Dieu est si grande, ben, qu'on finit par oublier un peu Dieu. C'est bizarre comme ça arrive des fois dans nos vies, hein, et du coup, on se sent fort. Et je voudrais d'abord commencer en vous parlant de ça. Et peut-être que quand même en acceptant de donner deux conférences, de participer à un concert et de prêcher le lendemain, je me suis senti quand même un peu fort. Hein. Vous ne trouvez pas que c'est un peu orgueilleux quand même? Alors Pascal, est-ce que tu accepterais de faire deux conférences, un concert, une prédication? Ben oui, il n'y a pas de souci. On se sent fort des fois. Hein. Ce n'est pas toujours mauvais, mais il y a évidemment un risque. Ou alors, quand on accepte de tels défis, et peut-être que le mieux, c'est de les accepter un peu en tremblant, hein, en se disant, oh là là, Jean-Rubin, je suis pas capable de ça, hein, mais peut-être avec l'aide de Dieu, on y arrivera. Mais il y a des moments quand même où on se sent fort. Et je voudrais commencer avec l'histoire de Gédéon. Alors, tout à l'heure, ce matin, on a parlé de Jonas, et puis on a évoqué quelques passages dans le Nouveau Testament. On a parlé des psaumes aussi, les psaumes imprécatoires. On a rappelé, ça fait un retour sur les épisodes précédents, hein, pour ceux qui arrivent juste. On a rappelé, ben voilà, que l'amour devait pas être notre Dieu, hein, que Dieu est amour, mais qu'il n'est pas seulement amour. Donc on a rappelé des choses importantes et on a rappelé avec Jonas que on peut bien connaître Dieu et puis des fois être quand même en désaccord avec lui et vivre l'erreur, hein, tout en étant quand même dans une connaissance de Dieu qui est une connaissance importante. Jonas savait que Dieu était un Dieu plein de compassion, de pardon, capable de pardonner les pires des atrocités, mais il n'était pas d'accord avec Dieu. Hein, donc il vivait aussi l'erreur et il a vécu des moments difficiles, hein, voilà, le poisson, la tempête, à cause de ce désaccord avec Dieu. Hein. Dans l'histoire de Gédéon, on a d'abord quand même, il me semble, pas mal d'humilité et puis un sentiment de faiblesse, hein, parce que Gédéon, quand l'ange vient le chercher, il dit « Oh là là, c'est quoi cette histoire hein? Pas moi quand même, moi je suis rien, hein? Je suis le plus petit de la plus petite. Hein? » Et puis finalement, il entre dans cette aventure-là. Et quand le combat se prépare et qu'il faut affronter les Madianites, on le voit dans le livre des Juges, et notamment au chapitre 7, hein, mais finalement, quand même, Gédéon arrive à rassembler 32 000 hommes, 32 ou 33 000, hein, c'est beaucoup. Et même si l'armée des Madianites comptait à peu près 135 000 hommes, le combat semblait possible. Hein. Et je pense que dans la tête de Gédéon et de ses soldats, il se disait quand même, 1 contre 4, c'est jouable. Hein. Et puis avec l'aide de Dieu, hein, puis voilà, quand même on se sent fort, ça va le faire. Hein. Et puis vous connaissez l'histoire, en tout cas beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Petit à petit, Dieu va demander en fait à Gédéon de réduire ses forces, hein, et jusqu'à les réduire à une peau de chagrin, hein, 300 hommes. Là, le combat semblait un peu inégal. Ça semblait pas très raisonnable de partir à la bataille avec 300 hommes contre les 135 000 Madianites. Et je pense que Dieu, évidemment, comme dans beaucoup d'histoires de la Bible, est en train de nous montrer des choses qui sont très importantes et qui ne concernaient pas que Gédéon, mais qui concernent notre vie de tous les jours. Tous ces moments où on se sent fort, tous ces moments où on pourrait remporter la victoire sans Dieu quasiment, c'est des moments où Dieu risque bien de nous demander en fait de laisser une partie de nos forces pour que les gens autour de nous puissent voir que c'est vraiment Dieu qui a agi. Parce que quand on est fort, quand on a 32 000 soldats, à la fin on se dit c'était peut-être Dieu, mais ils étaient 32 000 quand même. Donc c'est peut-être pas Dieu, c'est tout simplement parce qu'ils ont eu un peu de chance, ils ont eu plus de vaillance. Mais quand 300 hommes remportent une victoire contre la grande armée de Madian, alors là, il n'y a plus aucun doute. Et on se dit non, là, c'est vraiment un miracle. C'est Dieu qui a remporté cette victoire. Et je pense que bien souvent dans nos vies, et dans nos vies d'église, et dans nos vies de chrétiens, eh bien, il y a des moments où Dieu va nous faire passer par la souffrance, ou en tout cas le fait de nous délester, on va perdre de nos forces pour que sa gloire soit manifestée. Donc ce n'est pas des moments agréables. Et on préférerait rester fort, parce que c'est douloureux de vivre la faiblesse. Il y a des moments où notre Église vit la faiblesse. Si Dieu peut nous permettre de vivre de temps en temps des périodes de faste, de force, il nous rappelle quand même souvent à la faiblesse. Et il a d'ailleurs souvent appelé des faibles. Donc si on se sent un peu orgueilleux parce qu'on est chrétien, qu'on est dans une église sympa, et que, en lisant les épîtres de Paul aux Corinthiens, on se dit que Dieu a souvent choisi des faibles. Donc s'il nous a choisi nous, c'est peut-être parce qu'on était faibles. Et que les gens, en nous voyant accomplir, entre guillemets, des miracles, on se dira, ah oui, certainement, vu comme ces gens étaient faibles, vu le peu de qualité qu'ils ont, vu le peu d'intelligence qu'ils ont, ah oui, il y a vraiment Dieu qui travaille avec eux. Et moi, ça me touche de me dire que Dieu est en train de nous rappeler que c'est avec de petites gens, de petites églises, de petites forces qu'il va accomplir des miracles. Donc on est des fois un peu découragé, désespéré de nos églises, Voilà ce qu'on peut proposer comme chant, du fait qu'il y ait peu de jeunes, du fait qu'on ait peu d'audace ou peu d'enthousiasme. Ouais, mais c'est avec cette faiblesse que Dieu agit. Et c'est avec cette faiblesse qu'il fait des miracles. Mais il faut quand même partir à la bataille. Et vous voyez que Gédéon, en fait, quand on réduit la voilure, il pourrait dire à Dieu, mon Seigneur, moi je quitte le bateau. Parce que là, 300 hommes, c'est pas raisonnable. Et je pense qu'il y a des fois dans nos vies où on en est aussi à ce point-là. On est d'accord pour que Dieu nous apprenne à vivre la faiblesse, et puis on sait qu'on doit compter sur lui, on sait qu'il accomplit des miracles. Mais il y a un moment où on lui dit, Seigneur, non, là, quand même, t'exagères, je ne peux plus te suivre. Je crois que 15 000 hommes, c'était bon, mais 300, ce n'est pas raisonnable. Et je pense qu'il y a des moments où, comme Jonas, on sera en désaccord avec Dieu. Alors, Jonas, c'était une question théologique précise, il ne voulait pas du pardon des Ninivites. Nous, ce sera que des fois, on ne voudra pas de la faiblesse que Dieu nous impose. Et on préférerait la santé, on préférerait la force, et on préférerait le talent. On aimerait d'ailleurs souvent ce que les autres ont et qu'on n'a pas. Et Dieu nous dit non, c'est avec toutes tes faiblesses que j'aimerais accomplir de grandes choses avec toi. Mais vous avez entendu, donc il faut partir à la bataille. Et accepter de partir à la bataille alors qu'on est faible. Dieu nous demande, je crois, de ne pas attendre d'être fort pour partir à la bataille. Et nous, souvent, en fait, je crois très, très souvent, on attend d'être fort. Donc, c'est une exhortation. C'est pas du misérabilisme et c'est pas se complaire, en fait, dans les difficultés. On ne va pas se dire, on est une petite église, c'est génial, parce que de toute façon, Dieu veut des petites églises. Non, c'est pas ça. Et vous rappelez ce que j'ai dit ce matin, en tout cas pour ceux qui étaient là. Le risque, en fait, souvent, c'est l'hypertrophie. Quand on parle que d'amour et qu'on oublie tout le reste. Si on parle que de la faiblesse, que Dieu souvent nous fait vivre pour manifester sa gloire, on oublie que de temps en temps, Dieu accomplit des miracles. Il accomplit des miracles avec notre faiblesse. Et il nous demande de partir à la bataille. Donc si on est simplement en train de dire « Oui, mais notre église est faible, mais c'est parce que Dieu nous fait vivre cette faiblesse, c'est parce qu'il veut accomplir des miracles en nous. » Oui, mais il veut accomplir des miracles parce qu'on va partir à la bataille. Donc voilà, on doit vraiment garder ces choses-là ensemble, accepter que Dieu nous affaiblisse. Et je pense même, en fait, que parfois, Dieu nous enlève des choses qui faisaient notre fierté. Et ça, c'est difficile. Et il va nous montrer, si on était hyperactif, dernièrement, en fait, j'en ai parlé à quelques-uns à table, mais c'était surtout les amis du groupe de musique, là. Dernièrement, on a eu ce qu'on appelle dans notre communauté une assemblée consultative. Donc, ce n'est pas une assemblée générale, il n'y a pas de vote, il n'y a pas d'élection, mais on prend le temps avec la communauté d'échanger. Ça évite d'ailleurs que les assemblées générales soient trop houleuses. Si on parle beaucoup avant l'assemblée générale, ça se passe mieux. Et dans cette assemblée consultative, eh bien, il y a des gens qui ont dit « Ouais, on apprécie bien notre pasteur, il est un peu hyperactif quand même ». Je ne sais pas si c'était un compliment. Je sais que ça se soigne aussi, l'hyperactivité. Donc, je ne sais pas si bientôt on va me proposer des médicaments. Hein, mais je sais, et je crois qu'on doit tous savoir, prendre conscience qu'en fait, notre force peut nous être enlevée. Hein. Et je dis ça en tremblant parce que je crois que notre force et nos talents peuvent nous être retirés. Et pour la gloire de Dieu. Et en fait, il faut qu'on se prépare à ça. C'est dur ce que je vous dis, mais je vous assure que je me le dis à moi-même. Et c'est mon deuxième point. Je vous ai parlé de la faiblesse, cet appauvrissement, ce Dieu qui nous demande en fait d'accepter d'être peu nombreux, de se sentir faible parce qu'il va accomplir des miracles. Eh bien, mon deuxième point, en fait, cet après-midi, c'est que Dieu nous demande d'être prêt, de ne pas être surpris en fait par l'épreuve et la souffrance, la souffrance dont on a parlé avec Sébastien. Moi, je trouve que trop souvent, les chrétiens sont surpris par la souffrance, par la mort, par la maladie, par les privations. Je ne comprends pas en fait qu'on soit surpris. Et si on est surpris, c'est que notre intimité avec Dieu n'est pas si grande. C'est que notre connaissance de Dieu n'est pas si grande. Quand on lit quand même dans le livre des Actes, chapitre 14, verset 22, il y a des paroles très claires qui nous disent que c'est au travers de grandes tribulations qu'on entrera dans le royaume de Dieu. C'est très clair. Et quand les disciples, je ne sais pas si vous vous rappelez cette parole extraordinaire, les disciples ils disent à Jésus quand même, et puis c'est vraiment humain, nous on se met vraiment à leur place. Autant c'était difficile quand Sébastien me disait « mettez-vous à la place de Jésus ». Voilà, se mettre à la place de Jésus, ce qui ressent. Ah, Sébastien, c'est dur quand même, se mettre à la place de Jésus. Mais se mettre à la place des disciples, ça je crois qu'on est plus fort. Et les disciples, en fait, ils disent à Jésus « Seigneur, on a tout quitté pour te suivre ». Vous avez vu, même s'il ne posait pas la suite de la question, on a déjà compris. Seigneur, on a tout quitté pour te suivre. Seigneur, avec un clin d'œil, qu'est-ce que tu vas nous donner? Qu'est-ce qu'on va recevoir en échange? On a quitté nos terres, on a quitté nos familles, on a quitté notre travail. Et le Seigneur répond. Il ne répond pas toujours. Des fois, il répond à des questions par des questions. Il répond. Vous avez quitté des terres, vous aurez de nouvelles terres. Vous avez quitté votre famille, vous avez une nouvelle famille. Vous avez quitté votre travail, vous avez une nouvelle mission. Et vous aurez aussi des persécutions. Quelle promesse extraordinaire. Dieu nous promet, en fait, Jésus promet à ses disciples, venez avec moi, vous serez persécutés. Ça va être génial. Vous voyez qu'on est loin, en fait, d'un appel séduisant, où on va tricher avec vous. On va dire, venez dans l'église, c'est super, vous allez être guéris, vous allez vivre des choses fantastiques. Non, on ne peut pas dire ça aux gens. Venez avec Dieu. Venez, suivez-le, croyez en lui. Il vous donnera la vie éternelle et les persécutions. Venez nombreux. Parce qu'en fait, en croyant en lui, vous recevrez la paix, la confiance. Tout ce dont on a parlé avec Sébastien, c'était vrai. Je confirme ce qu'il a dit. Il n'a pas menti. Et avec tout ça, il a commencé à en parler aussi, la souffrance. La souffrance. La haine du monde, parce que le monde ne supportera pas la vérité. D'ailleurs, c'est ce qui fait que des fois, c'est difficile, on en a parlé ce matin, de dire la vérité, parce que le monde ne la supporte pas. La haine des autres, de ceux qui ne sont pas encore en Dieu. Et puis la souffrance, parce que Dieu va des fois nous envoyer la souffrance. Vous savez, quand on commence à lire cette deuxième lettre de Paul, aux Corinthiens, au chapitre 12, et qu'on lit ça commence déjà au chapitre 11, le témoignage de Paul qui dit, bon voilà, on me critique beaucoup, je vais vous expliquer, je ne voulais pas faire ça, vous me poussez à bout, du coup je vais vous dire tout ce que j'ai vécu, je vais vous dire tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je connais quelqu'un, quand Paul dit ça, on comprend au bout d'un moment qu'il parle de lui, je connais quelqu'un qui, il y a 14 ans, a été enlevé, hein, au septième ciel, au paradis. Hein, il a vécu une expérience spirituelle incroyable. Quelque chose qui est difficile à imaginer, quelque chose que certainement peu ont vécu. Hein. L'apôtre Paul est en train de parler d'un moment extraordinaire dans sa vie. Un sommet, en fait, de sa vie spirituelle. Et juste après, l'apôtre Paul va nous parler de cette écharde dans la chair hein, que Dieu lui a envoyée, afin qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. Vous comprenez ce qu'on est en train de lire, en fait ? Je ne sais pas si on comprend bien tout le temps. Ou alors on l'entend et puis on le met de côté parce que ce n'est vraiment pas agréable, quoi. L'apôtre Paul a vécu quelque chose d'extraordinaire. Ce matin, on a parlé aussi des trois disciples sur la montagne et la transfiguration. C'était génial quand même, hein ? C'était un moment fort. Et juste après la transfiguration, il y a toujours des moments difficiles. L'apôtre Paul, il a vécu ce moment d'intimité avec Dieu comme peu en ont vécu. Et il pourrait se glorifier de ça. Non seulement il ne veut pas s'en glorifier, apparemment, mais Dieu va l'aider à ne pas s'en glorifier du tout en lui envoyant hein, une écharde dans la chair, un ange de Satan qui va le souffleter, hein, le blesser. Et c'est quand même important de lire, et Sébastien nous en a parlé aussi, je pense que l'apôtre Paul, en tout cas, s'est clairement dit, il a demandé à être libéré de cette souffrance. Hein. Je pense qu'il a fait comme Jésus, hein, qui demandait en fait ce qui lui semblait bon pour lui, hein, mais en disant après que ta volonté se fasse. L'apôtre Paul a demandé et il a insisté. Par trois fois, il a demandé. Hein. Et puis, il a accepté la réponse de Dieu. Je ne sais pas s'il y a eu une grosse voix comme dans les films, « Ma grâce te suffit hein. ». Ce n'est pas sûr du tout. Hein. Ou s'il y a eu un rêve hein, qui a aidé Paul à comprendre que sa grâce, la grâce de Dieu lui suffisait. Ou bien si c'est petit à petit ce silence de Dieu, cette non-réponse dont on a parlé aussi cet après-midi, eh bien qui a été suffisant pour Paul. Dieu m'a répondu. Il n'a rien fait pour moi. C'est sa réponse. Son amour me suffit. Le sacrifice de Jésus sur la croix me suffit. Le miracle de Jonas me suffit. C'est ce que Jésus dira à des pharisiens, à des gens très religieux qui disent « Allez, montre-nous un miracle, là, on croira. Tu en as fait beaucoup pour les autres, fais-le pour nous, là, maintenant, hein, Jésus dit. Pour vous, hein, il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas, qui est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. » Évidemment que Jésus, de cette façon-là, était en train de dire que ce n'était pas une petite histoire pour les enfants, hein, comme Pinocchio et Geppetto, même s'il y a des ressemblances frappantes hein, entre les deux histoires. C'est une vraie histoire, c'est un miracle, et qui parle d'un autre miracle encore plus exceptionnel. « Je vais mourir, je vais rester 3 jours hein, dans le séjour de la mort et je vais ressusciter. » Vous n'avez pas besoin d'autre miracle. Nous n'avons pas besoin d'autre miracle dans notre vie. Quand Dieu les donne, ces autres miracles, c'est vraiment bonus. Mais on n'a droit à rien. On devrait se contenter du miracle de Jésus sur la croix, mort et ressuscité pour nous. Tout le reste, c'est cadeau. Mais ce n'est pas un droit. Et on devrait pouvoir vivre hein, dans la douleur, dans la difficulté, dans le dénuement. L'apôtre Paul dit qu'il a appris à vivre dans toutes les situations, hein, dans la richesse, dans le dénuement. Et puis à un moment, il dit, bon, en reprenant un petit peu la parole du proverbe, justement, hein, « Ne me donne ni pauvreté ni richesse, hein, de peur que dans la pauvreté, je me révolte contre toi et que dans la richesse, je t'oublie. » Dans la richesse, dans la force, on en a parlé tout à l'heure, quand on se sent fort, bien souvent, on oublie Dieu. Hein. Dieu va nous demander de nous adapter, hein. Dans la richesse, dans l'opulence, dans la force hein, d'être plein d'humilité et de vigilance, hein, de se souvenir que tout ça nous vient de Dieu, que ce n'est en aucune façon une récompense. Ce n'est pas nous qui avons mérité cette richesse, ces talents, cette vie, cette période de notre vie, et que cela peut ne pas durer et s'arrêter de suite. Et que nous apprenions à vivre aussi dans le dénuement, dans la difficulté, dans la souffrance. Dans la maladie. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas guérir les maladies. Il peut tout faire, aujourd'hui comme avant. Il peut nous libérer, il peut nous guérir d'une maladie inguérissable. Il peut le faire maintenant, mais il peut aussi décider de ne pas le faire. Et nous ne devrions pas être surpris. Il y a tellement de moments dans la vie des chrétiens où nous voyons des gens surpris, déçus, désespérés, Parce que Dieu ne les guérit pas. Parce que Dieu n'amène pas le renouveau dans leur église. Parce que Dieu ne répond pas à toutes leurs prières. Vous avez entendu ce matin, on a cité Matthieu 18. Hein, si deux ou trois se mettent d'accord, hein, je leur donnerai ce qu'ils demandent. Oui, oui, c'est vrai. C'est une vraie parole biblique. Vous avez remarqué qu'elle est dans un chapitre qui parle du pardon. Hein. Si deux ou trois s'accordent, si deux ou trois se réconcilient, hein, je leur donnerai ce qu'ils veulent. Oui, réconciliez-vous d'abord. Hein. Vivez le pardon. Hein. Et puis se mettre d'accord, ce n'est pas juste se dire « Bon, allez, je vais trouver quelqu'un qui veut la même chose que moi. » Et avec Dieu, il ne pourra pas dire non, hein, puisqu'on est deux, là, ou trois, un troisième. Allez. Non. Dieu va vraiment répondre à nos demandes de réconciliation. Dieu va vraiment répondre à tout ce qui entre dans son plan. Hein. Et heureusement que Dieu ne nous donne pas tout ce que nous demandons. Vous avez imaginé un seul instant la panique que ça serait si Dieu répondait à toutes nos prières, ce serait une catastrophe pour nous, pour ceux qui nous entourent, pour l'Église, pour le monde. Heureusement que Dieu ne répond pas à toutes nos demandes. Et d'ailleurs, s'il nous demande de nous mettre d'accord un peu, c'est pour qu'on ne reste pas sur nos idées personnelles, mais c'est pour que de temps en temps, comme je vous l'ai dit ce matin, des gens si différents, des gens qui ont des hérésies différentes, qui ont des erreurs différentes, des douleurs différentes, qui se mettent ensemble pour prier, alors là, oui. Ils risquent bien de demander des choses qui sont dans le plan de Dieu. Mais des gens, vous savez, qui ont un peu le même caractère, qui ont les mêmes envies, qui ont les mêmes défauts, qui ont les mêmes hérésies, qui se mettent ensemble, qu'est-ce que ça va donner? Ils ont mis leurs hérésies en commun, hein, mais les mêmes. Leurs envies en commun, mais les mêmes. Leurs talents en commun, mais les mêmes. Ça risque bien de ne pas donner grand-chose. Bien souvent, trop souvent en fait, dans nos églises, nous nous ressemblons un peu trop. Et ce n'est pas facile d'accepter la différence, d'accepter des gens qui sont vraiment différents de nous, d'un âge différent, d'un niveau social différent, avec une histoire différente, des gens qui ne sont pas comme nous. Et nous avons tellement besoin d'eux. Nous avons besoin les uns des autres. J'espère que vous comprenez que cet amour de Dieu, c'est cet amour en fait qui s'est manifesté à la croix et qui devrait nous suffire. C'est peut-être un peu simple ce que je vous dis, hein, mais cela devrait nous suffire. Nous avons été aimés. Nous avons été aimés comme jamais auparavant. Et peut-être que si nous l'avons compris un jour, hein, nous avons besoin de le redécouvrir chaque jour. On avait raison de dire cet après-midi que c'est un travail de tous les jours, la confiance. Mais le salut, c'est une fois pour toutes. On est sauvé une fois pour toutes. Lorsqu'on donne sa vie à Dieu, lorsqu'on s'engage pour Dieu, Dieu s'engage pour nous. Ce n'est pas parce que nous sommes forts que nous allons tenir. C'est parce que Dieu s'est engagé pour nous. Il ne reviendra pas sur sa promesse. Personne ne les ravira de ma main. Hein, Jean 17. Ce que Dieu m'a donné, personne ne les ravira de ma main. Le salut, c'est une fois pour toutes. La confiance... Ce n'est pas une fois pour toutes, c'est un travail de tous les jours. L'amour, c'est une fois pour toutes. Vous savez, notre Père ne va pas nous aimer plus parce que nous lui obéissons. Il nous aime, c'est tout. Par contre, quand nous ne lui obéissons pas, nous rendons malheureux ceux qui sont autour de nous et nous nous rendons malheureux. Nous allons être sauvés, mais au travers du feu. Nous allons être sauvés, mais dans la tristesse, notre tristesse, et celle des autres. Cet amour de Dieu, en fait, on a besoin de le redécouvrir sans cesse. Cet amour extraordinaire, cet amour que nous ne méritions pas, constamment, et on le découvre aussi dans le regard des autres. On en a parlé ce matin, c'est un amour total, c'est un amour où nous osons nous dire des choses qui sont difficiles. C'est un amour qui n'attend pas la force. Souvent, nous attendons de Dieu la force et Dieu nous répond, ma grâce te suffit. Mon sacrifice sur la croix te suffit. Sébastien nous l'a un peu dit à sa façon cet après-midi et quand on entend ou quand on retourne sur les lieux de la vie de Job, hein, on est impressionné de voir que la réponse que Dieu donne aux questions de Job est une réponse étonnante, hein, qui aurait pu ne pas lui suffire. Job est en train de souffrir, Job a tout perdu. Vous savez, il y a la souffrance physique, il y a le fait de perdre son travail, il y a le fait de souffrir dans sa chair, d'être malade, et puis il y a la souffrance psychologique, le fait de perdre ses enfants. Et puis il y a la souffrance morale, le fait de souffrir sans savoir pourquoi on souffre, et alors qu'on a l'impression d'avoir été juste. Job, c'est celui dont on nous dit qu'il priait même pour les péchés dont ses enfants n'avaient pas conscience. Il priait pas seulement pour lui, pour que Dieu le pardonne, il priait pour que Dieu pardonne ses enfants quand il faisait du tort à quelqu'un sans s'en rendre compte. Et c'est cet homme-là, ce juste, qui se trouvait dans la douleur et dans la difficulté extrême. Et c'est cet homme-là, ce juste, qui crie à Dieu, qui a cette grande liberté qu'on trouve dans les psaumes. Si on a une grande liberté dans les psaumes, dans le livre de Job aussi, pour parler à Dieu, pour dire « Seigneur, ça suffit, je préfère mourir que de continuer à vivre avec toi. Pourquoi je suis né ? Pourquoi je suis venu au monde ?» On n'ose pas toujours dire des choses comme ça à Dieu. Job avait une grande liberté de parole avec Dieu. Et Dieu lui a répondu, « Où est-ce que tu étais quand j'ai placé les étoiles, les planètes ? Est-ce que tu as déjà vu là, les ânes sauvages, l'hippopotame, le crocodile ? On n'est pas sûr de la traduction des animaux, mais ça ressemble dans la description. » C'est incroyable cette réponse de Dieu à Job. Dieu, en fait, est en train de dire à Job, « Ma grâce te suffit. C'est moi le Créateur. Tu dois pouvoir me faire confiance, même si tu ne vois rien dans ta vie qui te pousse à faire confiance. » C'est difficile, hein ? Il y a des moments dans notre vie où, comme Job, nous serons complètement perdus, sans rien, en fait, qui nous permette vraiment d'être encouragés. Mais il y a un jour, j'espère, il y a un jour où nous nous sommes engagés pour Dieu et où Dieu s'est engagé pour nous. Je pense que ce jour-là, je ne sais pas trop pour Job, mais il y a un moment dans l'histoire où il dit « Avant, mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant, mon œil t'a vu. » Vous voyez, notre vision de Dieu n'est pas toujours complète, on en a parlé ce matin. Il faut que de plus en plus notre vision de Dieu soit totale, que notre intimité avec lui soit complète. On ne le connaîtra jamais parfaitement, on ne le comprendra jamais parfaitement, mais on peut le connaître vraiment, de mieux en mieux. Et il y a un jour où notre connaissance est suffisante pour que nous puissions nous engager avec lui, pour que nous puissions répondre à son amour. Ce jour-là, tout change. Tout change. C'est-à-dire, notre statut change. Nous recevons, nous acceptons la grâce de Dieu. Et cette grâce nous suffit. Ensuite, c'est pas facile. Mais chaque jour, nous pourrons nous appuyer sur cet engagement de Dieu vis-à-vis de nous. Je ne t'abandonnerai jamais. Je suis là tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il arrive, quelle que soit ta faiblesse, tu peux partir dans la bataille avec la force que tu as. Il faut reconnaître peut-être toutes ces références, tous ces moments où des serviteurs de Dieu, des croyants, se sont retrouvés dans la difficulté et où Dieu leur a dit « C'est bon, je suis là. » Quand Jésus s'en va et que les disciples restent là, excusez-moi, mais je pense qu'en fait, ce n'était pas un moment facile pour eux. On les privait en fait de ce qui faisait leur force. Jésus, Seigneur, ne pars pas, reste avec nous. Et Jésus s'en va. Il vaut mieux que je m'en aille. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous aurez mon esprit en vous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous avons vécu ce moment où nous donnons notre vie, où Dieu s'engage pour nous, eh bien l'Esprit est en nous. Alors c'est vrai que la flamme de l'Esprit, des fois, c'est un petit peu comme le chauffe-eau. Vous savez, la veilleuse du chauffe-eau. Elle est toujours là. Et ça peut s'enflammer à n'importe quel moment. Mais il y a des fois des vies de chrétiens où il n'y a que la veilleuse pendant toute la vie. Ça ne réchauffe pas beaucoup une veilleuse. Vous savez, dans l'Église, même si on met plein de veilleuses ensemble, bon, ça fait un peu de lumière, ça fait joli, mais ça réchauffe pas trop une ville. Le Saint-Esprit est là. C'est le service minimum. Mais quand on reconnaît sa faiblesse, « Seigneur, il y a une toute petite veilleuse en nous, si tu pouvais faire quelque chose avec. » Quand on part au combat avec cette veilleuse, quand on demande à Dieu d'ouvrir le robinet d'eau chaude, alors là, vous savez, le bruit du chauffe-eau, là. C'est incroyable ce bruit, ça m'impressionnait enfant. quand toutes les flammes, là, je regardais à l'intérieur, là, quand toutes les flammes bleues s'allument, hein, je crois qu'il peut se passer des choses comme ça dans notre vie. Hein. Des moments comme ça où en reconnaissant notre faiblesse, en étant conscient que l'Esprit de Dieu est en nous, hein, on demande à Dieu d'allumer le bouton d'eau chaude là, et on part au combat avec lui. Hein. On part au combat. On ne reste pas dans notre maison, on ne reste pas tranquille au chaud dans notre église. Hein. On part au combat et on sait qu'on a seulement 300 hommes avec nous. Hein. Bon, seulement une église de 30-40 personnes, hein, ou 60 maximum. Hein. Alors qu'au départ, on devait être 35 000, Seigneur. Hein. Tu nous avais promis une église extraordinaire, regarde ce qu'on a. Et que des bras cassés en plus. Vous savez qu'on n'ose pas le dire, mais c'est souvent ce qu'on pense. Hein. Et nos pasteurs, n'en parlons pas, Seigneur, Seigneur. Tu ne pouvais pas nous envoyer des gens vraiment capables. Je ne dis pas ça pour Jean Rubin, il y a des exceptions. Hein. Et le Seigneur nous dit non, non, c'est avec les 300. C'est avec Pascal qu'il faut y aller. C'est avec Jean Rubin. C'est cela que je vous ai donné. Vous êtes faibles. Vous êtes rien. Vous êtes rien dans le monde. Le monde va se moquer de vous parce que quand il vous voit, il dit « Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est ça l'Église ? Oh là là ! Je les ai entendus chanter, je l'ai vu dans la rue, c'est ridicule ! C'est ridicule ! Ils sont ridicules ! » C'est avec nous, c'est avec vous qui êtes ridicules, que Dieu veut faire des choses extraordinaires. Et quand les gens vont voir là ce qui se passe, et il se passe déjà des choses, tout l'amour que vous avez, toute la vérité que vous arrivez à dire et à vivre, au jour le jour, des petites choses, ça les gens n'osent pas le dire autour de vous. Hein. Ils n'oseront pas vous le dire bien souvent, hein. Mais ils sont impressionnés. Comment ils font pour rester debout ? Je ne connais pas vos vies, hein. Mais je sais qu'il y a des vies terribles. Il y a des vies de souffrance terribles et il y a des gens qui restent debout parce que Dieu est là. Parce que la veilleuse du Saint-Esprit est toujours là. Parce que son amour est toujours là. Parce que nous sommes persuadés qu'il nous aime. Et on reste debout. Et ça, c'est un miracle de Dieu. Et quand les gens voient ça, ils disent « Waouh, comment ils font ?» Et quand ils nous disent « Waouh, comment tu fais ?» C'est là qu'il faut qu'on dise « C'est grâce à Dieu. » Si jamais on dit « Ouais, bon, ben voilà, c'est comme ça. » Ah, on n'a pas saisi l'occasion. Et je me rappelle de mon épouse qui accompagnait un voyage scolaire. Et puis, elle disait tout simplement, ben voilà, en se présentant à une autre maman, ben, oui, moi j'ai 5 enfants. Et elle m'a dit, oh là là, comment tu fais, 5 enfants ? Et je me dis toujours que mon épouse aurait pu répondre, rien du tout, quoi. Ben oui, ben, c'est comme ça. Et elle a répondu, ben, c'est grâce à Dieu. Et la maman l'a regardé un peu bizarrement et il y a eu une discussion. Il y a tellement d'occasions que Dieu va nous donner où les gens vont dire, mais comment tu fais ? Et où il suffit de répondre, c'est grâce à Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est son amour. C'est sa force. Sans lui, j'y serais jamais arrivé. Les deux conférences, le concert et la prédication, sans lui, j'y serais jamais arrivé. Et vous, écoutez comme ça pendant tout l'après-midi, deux pasteurs de suite, et puis après un concert, et puis une prédication. Sans Dieu, vous n'y seriez jamais arrivé. Dieu a prévu des choses extraordinaires. Et souvent, mais je le dis pour moi, hein, autant que pour vous, souvent on reste au seuil. Hein. Il a prévu des choses extraordinaires et il veut le faire avec nous, pas avec d'autres. Hein. Enfin, les autres viendront après, mais avec nous d'abord, avec ceux qui sont là. Hein, avec nos petites forces, avec nos petites capacités, avec tout ce qui semble ridicule aux yeux du monde et qui est si beau et si extraordinaire. Au bout d'un moment, dans l'Église, on finit par ne plus voir que ce qui est difficile, douloureux, tout ce qui ne va pas bien, toutes nos faiblesses. Et on est découragé. Mais pourquoi est-ce qu'on serait découragé de nos faiblesses ? C'est dans la faiblesse que Dieu veut agir. On ne va pas se contenter de ça. Mais on va dire, Seigneur, voilà où on en est. D'abord, on veut grandir dans ta connaissance, on veut grandir dans notre vision de toi, on veut mieux te comprendre, mieux te connaître, mais maintenant, déjà, on veut partir au combat. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous bénisse, et que dans tous ces moments difficiles, hein, ceux qu'ont connu Gédéon quand il s'est retrouvé avec ses 300 soldats, ses 300 bonhommes, l'apôtre Paul, dans la souffrance, j'allais dire presque perpétuelle, hein, de son écharde dans la chair. On ne peut pas dire qu'on souffre plus qu'eux. La souffrance, ça se compare pas. Hein. Mais on peut dire en fait qu'on souffre comme eux. Et Dieu nous dit, ma grâce te suffit. Je t'ai aimé, je t'aime. Et si tu as répondu à mon amour, je ne t'abandonnerai jamais. Je veux faire des miracles avec toi. Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te demander pardon pour tout ce que j'ai pu oublier, tout ce que j'aurais aimé dire et qui venait de toi et qui n'a pas franchi le seuil de ma bouche. Mais je veux te dire merci parce que Seigneur, toi tu t'occuperas de dire tout ce que j'ai oublié à mes frères et à mes sœurs. Tu le leur diras dans ta parole, tu le leur diras à travers d'autres personnes. Je te remets ma faiblesse, ma petitesse. Et je te remercie de m'utiliser, Seigneur, pour ta gloire. Je te remets nos faiblesses rassemblées. Je te remets nos difficultés, nos souffrances, nos douleurs, pour que tu puisses, au travers de tout cela, Seigneur, dire ta gloire, pour que les gens puissent nous voir debout, rayonnant de joie malgré les épreuves, confiants en toi. Parce que tu nous as aimés, Seigneur, alors que nous ne le méritions pas, nous te disons merci pour cet amour. Nous te disons merci pour ta présence tous les jours avec nous. Nous te demandons de bénir cette église, de bénir toutes les églises représentées aujourd'hui. Nous te prions pour que nous puissions partir au combat, tels que nous sommes, vers ceux qui nous attendent, ceux qui ont soif de toi, ceux qui sont un peu surpris de ce que nous sommes, de nos réactions, de notre patience, de notre amour, de notre souci de vérité. Nous te remettons leur cœur, Seigneur, pour que tu les bénisses et pour que tu les touches, pour qu'ils puissent à leur tour s'ouvrir à ton amour, répondre à ton amour, s'engager pour toi, que tu puisses s'engager, t'engager pour eux, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour que nous ne puissions plus être surpris par la souffrance, par la difficulté, par la douleur, par tous ces moments où toi-même, tu vas permettre que nous souffrions, Seigneur, pour grandir, pour nous éviter l'orgueil, pour nous corriger, Seigneur. Permets que nous ne soyons pas surpris. Renouvelle notre vision, renouvelle ou fais grandir notre connaissance de toi, Seigneur. Accomplis des miracles, ces miracles qui nous surprennent et qui nous déplacent, le miracle du pardon, le miracle de la persévérance, le miracle de la guérison et le miracle de la foi dans la douleur, la maladie et la souffrance. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, et merci pour ce que tu vas faire encore. Amen.